Arcade Fire et un extrait de l'album Everything Now, la pièce Everything Now.
Oui, choix de pièce qui lance notre prochain sujet, puisqu'en fin de semaine avait lieu la remise des prix Juno, la grand-messe de la musique canadienne. J'aurais pu prendre des comptes rendus dans tous les quotidiens du pays, j'ai choisi de le faire dans le Journal de Montréal, un texte de Yann Lauzon. Prix Juno 2018, Arcade Fire rafle le prix de l'album de l'année. Grâce à Everything Now, la pièce qu'on vient juste d'écouter, Arcade Fire a reçu le prix de l'album canadien de l'année lors des 47e Juno Awards présentés dimanche soir à Vancouver. Appelé à lancer les festivités du gala dédié à la musique canadienne, le groupe est aussi monté sur scène pour interpréter la pièce-titre de son plus récent disque. La veille, La formation montréalaise a été récompensée pour ses accomplissements sur la scène internationale lors d'une cérémonie tenue hors d'onde. Charlotte Cardin n'a par contre pas eu la même chance. Après s'être avouée vaincue samedi devant le regretté Gord Downie et Kevin Drew dans la catégorie récompensant l'auteur-compositeur de l'année, la jeune chanteuse a vu la torontoise Jessie Reyes accepter l'honneur remis à la révélation de l'année. Bien que le nom du groupe Hedley ait été rayé il y a quelques semaines de la liste des nommés ou du Juno Awards attribué à l'artiste canadien le plus populaire, oui, le plus populaire, dis-je, la compétition n'en restait pas moins très forte. Ayant le choix entre deux grosses pointures telles que The Weeknd, Walk of the Heart, Justin Bieber et Alessia Cara, le public a jeté son dévolu sur Shawn Mendes qui brillait toutefois par son absence. Animé par Michael Bublé, qui avait dû se désister l'an dernier en raison de la maladie de son fils, l'édition télévisée des Juno Awards 2018 a été marquée par des prestations variées. En 2 heures, 10 numéros et un hommage à Gord Downie, chanteur de The Tragically Hip et gagnant posthume du Juno de l'artiste de l'année ont été offerts. Les artistes Sean Hook, Light et Daniel Caesar ont foulé la scène avant l'intronisation au Panthéon de la musique canadienne de la formation de Bare Naked Ladies. Le recours d'un des chanteurs du groupe de Stephen Page au micro pour la première fois en près de 10 ans a permis d'entendre les succès One Week et If I Had a Million Dollars en fin de soirée. Samedi, Daniel Bélanger avait remporté le Juno de l'album francophone pour Paloma, album remis hors d'onde également, on l'aura noté au passage. Le plus récent disque du chanteur a entre autres été préféré à Almana de Patrice Michaud, celui-là même avec qui Daniel Bélanger est arrivé ex aequo au dernier gala de la disque dans la course au Félix. Cinéma. Adib Al-Khalidé et Julien Lacroix se font leur cinéma, c'est le titre de Raphaël Gendron-Martin dans le Journal de Montréal. Adib Al-Khalidé et Julien Lacroix, oui, tourneront en mai leur premier film qu'ils ont entièrement scénarisé, a appris le journal. Le public est invité à participer au financement de ce projet de 150 000 $ que les deux humoristes produisent à eux seuls sans subvention. Un film tragicomique, telle est la description que l'on peut faire du premier long-métrage d'Adib Al-Khalidé et Julien Lacroix. Les humoristes de 30 et 25 ans plongent depuis l'été dernier sur le scénario de ce film qu'ils veulent dans le ton de Little Miss Sunshine et dans lequel ils camperont aussi les deux rôles principaux. C'est l'histoire de Walid, un homme dépressif qui rencontre Antonin, le plus grand des imbéciles heureux, raconte Adib. Un jour au boulot, Walid vit une situation qui est la goutte qui fait déborder le vase. Il décide de s'enlever la vie sur son lieu de travail. Antonin le trouve et se donne comme mission dès lors de ne jamais l'abandonner et de lui sauver la vie, de lui rendre le bonheur. Et c'est une comédie. Art visuel, un texte de La Voix de l'Est qui nous parle d'une peintre, Kylie Sanford. L'exposition mnémonique visuelle a attiré plus d'une centaine de curieux lors du vernissage à la galerie Art Sutton dimanche. Des toiles d'un réalisme poignant, créées avec une grande minutie, attendent les visiteurs. Kylie Sanford a présenté une quinzaine d'œuvres dédiées exclusivement à la nature qui seront exposées jusqu'au 29 avril prochain. Ses principales sources d'inspiration, les rivières et les forêts. L'artiste crée ses tableaux à l'aide d'une peinture à l'huile en y intégrant une touche de doré directement dans l'œuvre, mais également sur les côtés du cadre. Ce doré provient de feuilles d'or de 22 carats, un élément visuel difficile à oublier. Les enluminures celtes sont des manuscrits qui ont été dessinés et décorés par des moines qui valorisent beaucoup leur religion. J'ai voulu emprunter cette idée pour exprimer ma dévotion à la nature. Ces symboles invoquent pour moi le pouvoir, la richesse et la spiritualité que je lui associe à l'importance de sa conservation et de ses trésors. Le doré porte un message de valeur précieuse, partage-t-elle. Toutes les toiles peuvent sembler familières. Elles ont été peintes en s'inspirant des paysages de la région située entre Carnesville et Sutton. Quand je suis dans la nature ou seul à regarder la rivière, je me sens énergisé et réconforté par l'environnement. C'est ce que j'essaie d'exprimer par mon art, a-t-elle confié. L'artiste est d'ailleurs très reconnaissante des propos recueillis lors du vernissage. Les gens sont émus par l'ambiance exprimée par le tableau. Ils se sentent enveloppés. Pour moi, cela signifie que j'ai bien illustré l'émotion vécue et que maintenant, je suis capable de la faire ressentir aux autres. L'ensemble des œuvres présentées dans le cadre de l'exposition a nécessité près d'un an de travail. Mnémonique visuelle est la troisième exposition solo de Kylie Sanford. Sa formation en art a commencé dès la fin de l'école primaire à l'Art Gallery of Toronto. En 1990, elle rejoignait les bancs de l'Université de Concordia à Montréal pour faire ses études aux beaux-arts. Ses œuvres se retrouvent dans de nombreuses collections au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe et même en Australie, où elle a gagné plusieurs prix. Elle est membre du regroupement des artistes en art visuel, du Conseil des métiers d'art du Québec, de Culture Montérégie, de la Maison des arts et de la culture de Brampton et de la galerie Art Sutton. Remise des prix d'impératif français en fin de semaine à Gatineau, ce dont nous parle le droit, Jacques Normand Sauvé, une artiste des lauréats et plusieurs citrons. Le mouvement impératif français, un organisme voué à la promotion de la langue française, remettait dimanche à Gatineau ses prix d'excellence, mais aussi une flopée de prix citrons à des personnalités absentes, des organismes ou des politiques qui ont soulevé l'ire du groupe de pression. Notons d'abord que chaque année, un prix prestige est aussi remis à une personnalité dont l'itinéraire de vie a contribué à enrichir l'écosystème francophone. Cette année, c'est Louise Forestier qui est lauréate du titre et elle était présente dimanche au club de golf Gatineau où avait lieu la remise des prix. L'artiste de 75 ans y a prononcé une allocution devant les quelques dizaines d'invités et membres réunis et a même chanté a cappella quelques lignes de « Ne touchez pas à mon piano », le thème de son exposé. À noter que le prix Prestige, impératif français, est la toute première récompense non reliée à l'industrie du disque que la chanteuse recevait à vie, a-t-elle fait remarquer. En entrevue au droit, après l'événement, Louise Forestier confiait « Je n'ai pas de conseils à donner à la relève au Québec parce que quand j'étais jeune, j'écoutais pas les conseils. Pourquoi ils, les artistes de la relève, les écouteraient plus? Parce que c'est moi qui les dis? » Quel que soit le choix de la langue d'interprétation, qu'ils l'assument pleinement, mais qu'ils ne se mettent pas à écrire en anglais une langue qu'ils savent à peine écrire juste pour parler en anglais. Est-ce que le Québec d'aujourd'hui est très loin de ce que le Québec de l'Hostie Show était? J'ai pas la nostalgie du passé. Les jeunes sont équipés pour faire face à ce qui s'en vient. En tout cas, je leur souhaite. Je ne suis pas rempli d'espoir, mais de foi. J'ai l'impression qu'on s'en va directement dans le mur. La langue, je veux bien, mais pour moi, d'abord et avant tout, c'est l'environnement. J'ai fait une ruelle verte, j'ai fait ce que je pouvais faire à mon petit niveau avec mes voisins, mais c'est le grand danger, c'est sûr. Louise Forestier se voue désormais entièrement à la peinture et possède un petit atelier sur le plateau Mont-Royal à la maison. Elle espère pouvoir exposer dans environ 2 ans. Je ne chante plus depuis 4 ans et je suis très heureuse.
Dans la ruelle, les arbres, le soleil, il regarde quelque chose de rectangulaire qui dans sa main émet de la lumière. Aux abords d'une école, les oiseaux, les enfants, une farandole. En attendant, elle écoute quelque chose de rectangulaire qui dans sa main émet de la lumière. Des gens sur la place un soir, l'ivresse d'être là ensemble. Ils écoutent et regardent, ils se parlent solitaires dans quelque chose de rectangulaire. dans une salle obscure, un spectacle de musique. On reconnaît le public qui écoute et regarde, non pas la scène authentique, mais quelque chose de spectaculaire, dans quelque chose de rectangulaire. Celui qui donnait le spectacle abandonne le combat de guerre lasse, s'oublie lui aussi dans son quelque chose de rectangulaire. Il y voit celle qu'il aime, elle fait l'amour dans son quelque chose de rectangulaire, qui l'envoie en l'air, qui l'envoie en l'air, qui l'envoie en l'air. L'envoie en l'air. En silence, le ciel est magnifique, qui lui aussi dégage une clarté hypnotique et ne possède aucun rebord, aucune limite. En silence, le ciel est magnifique, qui lui aussi dégage une clarté hypnotique et ne possède aucun rebord, aucune limite. En silence, le ciel est magnifique, qui lui aussi dégage une clarté hypnotique et ne possède aucun rebord, aucune limite. Lève la tête au lieu de t'oublier dans quelque chose de rectangulaire. Lève la tête au lieu de t'oublier dans quelque chose de rectangulaire. Lève la tête au lieu de t'oublier dans quelque chose de rectangulaire. Lève la tête au lieu de t'oublier dans quelque chose de rectangulaire. Lève la tête au lieu de t'oublier dans quelque chose de rectangulaire, toi aussi.
Le très sympathique Jérôme Minière et quelque chose de rectangulaire.
Sujet divers et peut-être un peu plus léger, on commence immédiatement en vous parlant de Steven Soderbergh. Steven Soderbergh qui est quand même un réalisateur bien connu et on parlait tout à l'heure des films à petit budget, notamment celui d'Azib Al-Khalidi. Bien sachez que Soderbergh, lui, il va encore plus loin dans le genre. Il tournerait de nouveau avec son téléphone, un texte de Marc-André Lucier. Au moment où son plus récent film Unsane prend l'affiche en Amérique du Nord, Steven Soderbergh a indiqué qu'il n'était pas question pour lui de réintégrer le système de cinéma traditionnel. Son trailer, dont les têtes d'affiche sont Claire Foy, Joshua Leonard et Jay Farrow et Juno Temple, a été entièrement filmé avec le téléphone intelligent du cinéaste. En fait, Soderbergh a été si impressionné par la qualité que pouvait lui valoir son iPhone qu'il envisage de tourner désormais tous ses films de cette façon. « Ceci est le futur », a-t-il déclaré lors d'une conférence au festival de Sundance. « Il faudrait vraiment trouver une bonne raison pour m'empêcher de penser à utiliser cette méthode en premier. Un spectateur qui ne sait rien du mode de fabrication ne pourra jamais deviner qu'une scène a été tournée avec un téléphone. J'y vois potentiellement l'une de mes expériences les plus libératrices à titre de cinéaste. Ce que j'ai ressenti est tellement significatif que j'ai l'impression d'entamer un nouveau chapitre. » Il a 20 ans et c'est le Viagra. Le Viagra fête ses 20 ans, retour sur un succès planétaire, ce que nous rapporte l'agence France-Presse dans les pages du Journal de Montréal. Lancé il y a précisément 20 ans aux États-Unis, le Viagra a été vendu à des milliards d'exemplaires, devenant une source de revenus inespérée pour son fabricant américain, Pfizer, et pour les faussaires du monde entier. De sa découverte cocasse à ses usages détournés, en passant par ses multiples contrefaçons, retour sur l'iconique pilule bleue contre l'impuissance. Au fil des années 90, les équipes du laboratoire Pfizer expérimentent un nouveau médicament contre les angines de poitrine, le citrate de sildénafil. Au fil des essais, la nouvelle molécule se révèle impuissante à calmer les angoissantes douleurs thoraciques provoquées par ce mal. Mais la prise du médicament s'accompagne chez les hommes d'un effet inattendu, une érection. Et la plupart des cobayes humains rapportent une vie sexuelle grandement améliorée. Pfizer réoriente ses recherches vers l'impuissance masculine, trouble qui affecte un tiers des hommes de plus de 40 ans. Le traitement de la dysfonction érectile est jusqu'alors le parent pauvre de la pharmacopée moderne avec des traitements ni pratiques ni efficaces, mini-suppositoires à introduire dans l'urètre, piqûres dans le pénis, etc. L'Agence américaine du médicament, la FDA, donne son feu vert pour le nouveau traitement le 27 mars 1998. Sa mise en vente sous le nom de Viagra démarre début avril aux États-Unis. Le succès du comprimé bleu en forme de losange est immédiat. 150 000 prescriptions sont rédigées aux États-Unis dans les deux premières semaines de commercialisation. Le Viagra suscite un engouement mondial avant même son autorisation en dehors du sol américain. Il apparaît sous le manteau en Israël, en Pologne, en Arabie saoudite. Dès le printemps 98, à des tarifs 3 à 5 fois supérieurs au prix légal américain, soit environ 10 $ le comprimé. Après avoir débarqué officiellement en Europe en septembre 98, la pilule contre l'impuissance devient rapidement une locomotive financière pour Pfizer. Les ventes mondiales de Viagra s'envolent de plus de 30 % en 1999 et en 2000, dépassant rapidement le milliard de dollars annuel. Une surprise pour le groupe pharmaceutique qui n'espérait initialement qu'une centaine de millions de dollars de revenus par an. Des campagnes de publicité servies par un ex-candidat républicain à la Maison-Blanche, Bob Dole, en 1999, ou par un roi brésilien du ballon rond, Pelé, en 2002, assoit un peu plus la notoriété d'un médicament dont les données scientifiques disent qu'il commence à agir en moyenne 27 minutes après la prise. Rapidement, des contrefaçons circulent. Du faux Viagra fabriqué en Thaïlande ou en Inde est propulsé sur Internet quelques semaines après les débuts de sa commercialisation. Les escrocs ont compris qu'ils tenaient avec ce comprimé bleu une mine d'or. Le Viagra se classe rapidement en tête des médicaments contrefaits. Les saisies de fausses pilules par les douanes se multiplient. Un sondage réalisé en 2011 par Pfizer montre que 80 % du Viagra acheté au hasard sur Internet est contrefait. Ce faux Viagra peut contenir des produits toxiques comme des pesticides, du plâtre ou de l'encre pour imprimante, met en garde la firme américaine. L'usage détourné ou récréatif du Viagra apparaît tout aussi rapidement. Dès 1999, une étude britannique montre un usage marginal mais réel du comprimé bleu parmi des jeunes habitués des boîtes de nuit. En 2012, une étude américaine évalue à 8 % les jeunes Américains qui utilisent du Viagra ou d'autres facilitateurs d'érection, le Cialis, le Levitra, dans le but surtout de se rassurer sur leur performance. Le Viagra, dont des formes génériques sont disponibles depuis 2013 en Europe et depuis fin 2017 aux États-Unis, est également expérimenté comme dopant par les sportifs. Après hésitation, l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, ne l'inscrit finalement pas sur la liste des produits interdits. Le citrate de sildénafil n'aurait pas d'effet dopant, sauf en haute altitude, et c'est le cas de le dire. Il décolle et se blesse en voulant prouver que la Terre est plate. Un original américain, je vous parle de son histoire, ça a été publié dans la presse. Un scientifique autodidacte qui croit que la Terre est plate s'est propulsé à environ 570 mètres dans les airs, à bord d'une fusée artisanale, avant de se blesser légèrement en atterrissant durement dans le désert de Mojave aux États-Unis. Mad Mike Hughes a raconté à l'Associated Press qu'il s'était blessé au dos, mais qu'il se portait plutôt bien après le lancement qui a eu lieu samedi près d'Amboy, en Californie. Le décollage, qui a eu lieu dans cette ville du désert, environ 320 km à l'est de Los Angeles, était initialement prévu au mois de novembre. À l'époque, l'homme avait rencontré des ennuis mécaniques et le Bureau de gestion du territoire, auquel revient la gestion des terrains publics aux États-Unis, avait refusé de lui permettre de décoller. Le chauffeur de limousine âgé de 61 ans a converti une roulotte en rampe de lancement sur laquelle il a installé la fusée. Pendant des mois, il s'est enfermé dans son garage pour construire sa propre fusée afin de prouver que la Terre était plate. Bon, il faut dire ici qu'en Australie, on vit une crise majeure, absolument majeure. Écoutez, l'équipe de cricket a truqué ses balles. Il fallait le dire, c'est scandaleux. Le cricket australien accablé par un scandale de balles trafiquées, ce que rapporte l'agence France Presse à Melbourne. Le monde du cricket australien était accablé dimanche par un retentissant scandale de balles trafiquées lors d'un match en Afrique du Sud, de nombreuses voix réclamant la tête des coupables. Le capitaine de l'équipe nationale australienne Steve Smith et son coéquipier Cameron Bancroft ont semé la consternation quand ils ont reconnu avoir délibérément tenté d'altérer l'état de la balle lors du troisième test match contre l'Afrique du Sud au Cap samedi. Bancroft, 25 ans, a reconnu s'être servi de ruban adhésif afin de recueillir des particules abrasives sur le terrain et en frotter la balle de façon à l'érafler et ainsi modifier sa trajectoire prévisible. How shocking it is! En fait, c'est digne d'un Américain, ça s'est d'ailleurs déjà fait au baseball. Et voilà qui termine cette édition du 26 mars 2018 du quotidien des quotidiens. Demain, Hélène devrait reprendre son micro. Je ne vous en fais cependant pas la promesse, ayant été déjà déçu moi-même. Je remercie Jean-Sébastien Laliberté d'avoir assuré les choix musicaux et la mise en onde. Et je vous invite à demeurer à l'écoute pour les paractualités qui suivent dans quelques instants.